en chinois, les canards mandarins, Yuanyang, sont réputés inséparables. L'expression est devenue le symbole du couple amoureux. Que font par ailleurs les amants? Ils sont souvent à cheval, qui veut dire faire l'amour. Ils descendent de cheval, qui signifie jouir. Ils connaissent l'âme dissoute, cervelle, c'est-à-dire ce que nous nommons du terme technique et réfrigérant d'orgasme. L'âme dissoute. Ça les détend. Il leur arrive de jouer de la flûte ou d'allumer le feu de l'autre côté de la montagne, ce qui se comprend sans peine. La branche fleurie désigne le sexe masculin, la chambre des fleurs ou la pivoine le sexe féminin. Et voilà une question de jardin. Pour tout ça, il faut aller voir un petit peu tout ce qui se fait, la bibliothèque chinoise, qui est énorme. Question de jardin, et qui nous permet de surmonter notre nature mammifère. Une femme qui monte un homme est dite avalée et crachée. Le libertinage langue est comparé à un flot d'écume. Le printemps se lava de soif fait allusion à l'excitation. Tout cela fait partie des jeux des nuages et de la pluie. Youyou, rien de bien nouveau sous la lune. Le saule est l'arbre par excellence de cette région. Il évoque la taille féminine souple et au pluriel, la formule « fleurs et saules » indique les bordels, les lupins d'arbres, comme on disait autrefois, les maisons closes, etc. Pour plus de renseignements, liés aussi bien à l'alchimie qu'à l'art de la guerre, on consultera parmi bien d'autres traités aussi explicites que fastidieux le Tao Lo Fu et ses poétiques sur la joie suprême, et le type qui a écrit ça, Po Xin Ken, est mort en 826 de notre ère. Nous sommes ici chez les Tang. Un érudit a ajouté à ce traité un commentaire en le signant du surnom Ermite à cheval sur un crâne. Celui-là n'avait pas froid aux yeux. Bon, alors voilà, cet essai décrit la vie de l'homme depuis l'enfance jusqu'à la mort. S'il s'y présente quelques passages obscènes, c'est qu'ils étaient nécessaires pour décrire dans leur vérité les délices de l'union sexuelle. Car de toutes les joies que l'humanité possède, il n'en est aucune qui surpasse celle-ci, d'où vient que j'ai nommé cet essai, essai poétique sur la joie suprême de l'union sexuelle, du yin et du yang, du ciel et de la terre. Quant aux termes familiers, je les ai employés sans réserve pour amuser les lecteurs. Ce livre, donc, ainsi que tous les manuels érotiques chinois, Dieu sait s'il y en a, fait partie de la liste d'enfer de la centrale, laquelle recommande en revanche une vaste diffusion de littérature et de films pornographiques, capables de dégoûter des bataillons de violeurs. Il est bien précisé, dans les instructions secrètes, que tout ce qui est sexuel, doit être représenté de façon mécanique et bestiale, avec un vocabulaire ad hoc. Il faut que ce soit laid et con. Joie suprême est évidemment considérée par les censeurs comme une formule particulièrement dangereuse, comme si au lieu de consommer sa cam de façon abrutie, un drogué avait les moyens de parler des plaisirs qu'il inonde. Or, les salariés ne sont pas là pour ça. En revanche, ils peuvent baiser, se sucer, se mettre à fond, crier ou faire semblant, s'enculer, se branler, sans problème. Le foutoir ramène au travail, c'est connu. Le foutoir ou l'abstention sourcilleuse sont les deux colonnes du pouvoir. Au-dessus du plane, l'indiscrétion générale. Antenne parabolique permanente. La direction des ressources humaines a bien entendu organisé un district des fantasmes, et même depuis une vingtaine d'années, des divans opérationnels. L'hystérie est louée la névrose obsessionnelle encouragée à travers récits de rêves, symptômes, lapsus révélateurs, horizon castration, suggestions procréationnelles. Le malaise est une preuve de civilisation. Le signe égal est obligatoire. Votre inconscient est un fait. Maman surtout, sont les hauts fonctionnaires de la centrale. Tout le monde s'appelle les gens. Vous n'en sortirez pas, vos réactions sont prévues, on peut vous injecter quand on veut le produit angoisse suprême. Il est bon que vous viviez dans la peur. Dans sa préface à son livre célèbre, La vie sexuelle dans la Chine ancienne, daté de Kuala Lumpur, pendant l'été de 1960, Robert Van Gulik raconte sa découverte la même année que celle des manuscrits de la Mer Morte. En 1949, alors que j'occupais l'emploi de conseiller de l'ambassade des Pays-Bas à Tokyo, je tombais par hasard chez un brocanteur sur une série de vieux clichés montés. Il s'agissait d'un album érotique de la période Ming intitulé « Ordre de bataille chatoyant du camp fleuri ». Ce matériel provenait d'une vieille maison féodale du Japon de l'Ouest qui, au XVIIIe siècle, avait entretenu d'étroites relations avec le commerce chinois. Pareils albums sont aujourd'hui de toute rareté et comme leur valeur artistique n'a d'égal que leur importance sociologique, je me fis un devoir de rendre ma découverte accessible à d'autres chercheurs. Ma première idée fut de faire un tirage limité de ces clichés et de le publier avec une courte préface où j'indiquerai l'arrière-plan historique de l'art érotique chinois. Van Gulik souligne l'excessive pruderie et donc la censure qui ont sévi en Chine sous la dynastie Mandchou, c'est-à-dire de 1644 à 1912. Il est conscient, comme d'autres avant lui, d'être tombé sur un trésor caché. Si l'Occident n'offre guère d'écrits sur la vie sexuelle en Chine, c'est en partie que les observateurs, vu cette carence, ont eu du mal à recueillir sur place des données pertinentes. Je n'ai pas trouvé dans ce domaine de publication occidentale qui méritait une attention sérieuse. Quant aux choses de rebut, j'en ai rencontré d'incroyables quantités. Il remarque enfin, et cela nous intéresse, que jusqu'au XIIIe siècle, la séparation des sexes n'avait rien de rigoureux et que l'on parlait et écrivait librement au sujet des relations sexuelles. Marco Polo, qui parlait turc et mongol, mais pas chinois, a vu les choses du dehors. Il a quand même entendu parler des courtisanes de la ville de Qinshai, aujourd'hui Hangzhou, ancienne capitale de la Chine sous les Song du Sud, fameux jardin pagode des six harmonies datant de 1970-1978. Alors, il dit ça, ces dames sont extrêmement compétentes et accomplies dans l'usage des charmes et des caresses, et savent les mots qui répondent convenablement à chaque sorte de personne, en sorte que les étrangers qui en ont une fois joui ne se possèdent plus du tout et sont à ce point captivés par leur douceur et leur charme qu'en rentrant chez eux, ils disent qu'ils ont été au Qinshai, c'est-à-dire dans la cité céleste, et c'est sans patience qu'ils attendent le moment où il leur sera donné d'y retourner. Au passage, je signale que dans un livre de moi paru il y a 20 ans et qui s'appelle « Femme », et qui a défrayé la chronique, surtout parce qu'on a repéré des personnages masculins, il n'a jamais été dit qu'il y avait un grand nombre de personnages féminins, oh comme c'est étrange, et que même il y avait dans ce livre une relation très étroite avec une chinoise qui s'appelle Isia, qui est censée être dans les services secrets de la Chine populaire. Tout ceci est passé sous silence, comme c'est étrange. Pourtant, ce livre s'est beaucoup vendu. On en a beaucoup parlé. Il s'appelle « Femme ». On ne parle pas des femmes qu'il y a dedans. Et surtout pas de la chinoise. Dans quel monde vivons-nous ?